le journal complet de la rédaction.
Le journal vous est présenté par Thomas Cluzel.
Bonjour à toutes et à tous. Comme un air de déjà-vu, l'année 2021 commence comme 2020 a terminé, comprenez, sous la menace d'une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid-19 que les autorités tentent d'empêcher, avec en particulier un couvre-feu renforcé à partir de demain dans plusieurs départements. Hier soir, lors de ses vœux aux Français, Emmanuel Macron s'est voulu toutefois rassurant en exprimant son espoir avec le vaccin. Les mauvais chiffres du marché de l'automobile en France, sans surprise, celui-ci s'est effondré de plus de 25% en 2020, régressant à son niveau de 1975. Les amarres sont désormais larguées. Le Royaume-Uni est entré cette nuit dans une nouvelle ère après sa sortie du marché unique européen, parachevant ainsi la rupture historique du Brexit. Nous serons à Calais, où le premier ferry venant d'Angleterre est arrivé ce matin, mais aussi à Bruxelles et Londres. Enfin, nous retracerons la carrière de la légende du rap MF Doom, dont on a appris hier soir le décès à l'âge de 49 ans. Si le Covid-19 n'est pas et de loin la pandémie la plus mortelle de l'histoire, en revanche, l'année écoulée aura très certainement changé le monde comme aucune autre depuis au moins une génération. Une année de deuil, de souffrance, de défis, d'ordre et de contre-ordre. Une année sombre et hors norme, comme l'aura été le réveillon du 31, depuis les plages quasi vides de Rio jusqu'aux Champs-Élysées désertées de Paris, en passant par le quartier bouclé de Times Square, privé de sa traditionnelle tombée de la boule comme de ses fêtards euphoriques sous une pluie de confettis. À Sydney, le traditionnel feu d'artifice sur la baie et sa vue grandiose sur l'iconique opéra a bien eu lieu, mais sans ces centaines de spectateurs, généralement les yeux brillants d'éclats incandescents, condamnés cette fois-ci à fêter devant leur poste de télévision la fin d'une année qui ne manquera décidément à personne. Assez curieusement, en réalité, c'est à l'endroit même où l'année 2020 avait le plus mal commencé, avec 27 cas de pneumonie virale d'origine inconnue, là où l'ampleur du désastre à venir était à peine imaginable il y a un an, quasi jour pour jour, à Wuhan, que le passage à la nouvelle année aura été célébré avec le plus de ferveur lorsqu'au 12e coup de minuit, des ballons ont été lâchés par une foule en liesse. Quoi qu'il en soit, c'est donc sous l'influence toujours plus frappante de la pandémie que le monde a tout à la fois salué cette nuit la fin d'une année éprouvante avant d'entrer ce matin dans une nouvelle année préoccupante. Oui, cette année 2020 a été difficile, mais l'espoir, elle l'a, a pour sa part résumé hier soir le président Emmanuel Macron lors de ses vœux télévisés, et l'espoir a même un nom, le vaccin. À ce titre, le président a notamment abordé la délicate campagne de vaccination démarrée au compte-gouttes, cherchant un compromis entre les uns qui craignent une obligation et les autres qui accusent la France d'aller trop lentement.
Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions, encadrées par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquelles la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner de manière sûre et dans le bon ordre, en commençant par ceux qui présentent le plus de risques.
Alors évidemment, l'épidémie reste aujourd'hui une épée de Damoclès pour les mois à venir, le conseil scientifique pronostiquant même un probable rebond incontrôlé dans les prochaines semaines. On sait par ailleurs que la course à la vaccination prend toute son acuité face à l'apparition de variants du virus qui semblent plus contagieux, l'un repéré en Grande-Bretagne, l'autre en Afrique du Sud, et qui désormais circulent tous les deux en France. Et c'est ainsi que peu avant les vœux présidentiels, dans une déclaration surprise, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait lui annoncé une accélération de la campagne de vaccination. On se souvient qu'il y a 24 heures à peine, pourtant, le gouvernement disait assumer la lenteur. Il semble que ce ne soit plus tout à fait le cas. Dès lors, Tara Schlegel, qu'est-ce qui va changer concrètement ?
Pour répondre à cette question, Thomas, il faut relire les 12 tweets que Olivier Véran, ministre de la Santé, a publiés sur son fil à 17h hier. Aucun autre élément concret n'a depuis été ajouté à cette communication. C'est donc grâce aux tweets 8 et 10 sur 12 que, d'une part, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent pourront se faire vacciner dès lundi, et d'autre part qu'il y aura, je cite, « avant la début février, des premiers centres de vaccination en ville pour commencer à vacciner les personnes de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus, etc. Voilà donc pour les annonces concrètes. C'est un infléchissement de la stratégie. Olivier Véran parle d'une campagne de vaccination qui, entre guillemets, prend de l'ampleur. Il parle aussi d'accélérer la protection des publics prioritaires, mais il ne parle pas de changement de cap. On reste sur la stratégie où les plus fragiles seront vaccinés avant les autres. Simplement, les soignants de 50 ans et plus ne vont pas devoir attendre qu'on ait terminé la vaccination d'environ 1 million de personnes dans les EHPAD, ce qui, au rythme actuel, aurait pris sans doute beaucoup de temps. Et puis, il y aura, comme chez nos voisins, des vaccinodromes en France, mais là encore très peu d'informations sur la forme concrète qu'ils vont prendre d'ici février, dit le ministre. Pour l'instant, les élus locaux, apparemment, n'ont pas encore été approchés par les autorités de santé.
Et pour continuer d'évoquer cette stratégie vaccinale, Laurine Benjebria joint au téléphone Axel Kahn, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Axel Kahn, bonjour.
Bonjour et tous mes vœux, bonne année.
Vous êtes généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer. Voilà bientôt une semaine que la campagne de vaccination a débuté en France. 200 personnes ont reçu les injections contre plusieurs milliers chez nos voisins allemands ou italiens. Un démarrage lent que vous aviez pointé du doigt. Le gouvernement semble répondre à vos critiques. Les soignants de plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès lundi. Promesse du ministre de la Santé, Olivier Véran, hier sur Twitter. Est-ce que cela vous convient ?
Disons qu'il y a une avancée qui est incontestable, d'autant plus qu'il a également annoncé qu'il y aurait une accélération de la procédure, une simplification du consentement, plus d'enthousiasme dans la présentation de la vaccination, une ouverture de centres de vaccination en ville. C'était des choses que je demandais et que la Ligue contre le cancer par ma voix demandait, et par conséquent, nous ne pouvons qu'être satisfaits de cela. On ne l'est pas totalement, nous craignons une situation sanitaire extrêmement difficile, et alors, nous semble-t-il, il faut impérativement préserver les soignants, quel que soit leur âge, pour les maintenir en état de nous soigner.
Mais appelez-vous à changer de stratégie globale, c'est-à-dire oublier la priorité vacciner tous les volontaires, pas seulement les soignants, et sans distinction d'âge?
Je l'aimerais bien, mais je suis un homme extrêmement réaliste. Je n'ai jamais été un adepte du « il y a qu'à faucon ». Et je sais que les doses de vaccins disponibles sont limitées. Elles sont limitées, en réalité, dans tous les pays européens. On va dire que dans cette difficulté, les personnes prioritaires, parce que les plus fragilisées, et d'autre part, les soignants, plus les personnes âgées en dehors des EHPAD, me semble raisonnable dans un premier temps. Dès que cela sera possible, il faudra élargir la vaccination.
Mais cela vous semble-t-il réalisable ? Une campagne massive, cela suppose d'avoir un grand nombre de doses disponibles, vous l'avez dit, et de pouvoir logistiquement les acheminer sur tout le territoire. Ça vous semble réalisable ?
Il y a deux choses. Il y a d'une part la logistique, si on a assez de doses. La réponse est oui, c'est réalisable. D'abord, on l'a déjà fait en 2009 pour H1N1. Et donc, c'est possible avec des grands centres de vaccination. Et il serait possible, si on avait assez de doses de vaccins, de vacciner toute la population qui désire se faire vacciner d'ici juin. Malheureusement, on n'aura pas assez de doses de vaccins. Et cet objectif, peut-être, ne pourra être atteint qu'au mois de septembre ou à la fin de l'année.
Axel Kahn, le président Emmanuel Macron, lors de ses vœux hier, n'a pas beaucoup insisté sur la nécessité de se faire vacciner. Il n'a pas fait de pédagogie autour du vaccin. Le regrettez-vous ?
Alors écoutez, c'est ce que j'ai reproché, franchement, en le disant tel que je le ressentais, au ministère des Solidarités et de la Santé. Réellement, il s'était avancé dans cette campagne de vaccination comme à regret. Une politique petit bras, je dirais, si je voulais parler le langage habituel. C'est pas ce qu'il faut. Il faut naturellement de la transparence. Il faut naturellement que la vaccination soit basée sur le volontariat. Mais ce que l'on vit là est totalement enthousiasmant. On a un vaccin qui a été mis au point en un an. C'est la première fois. Ce vaccin est redoutablement efficace. Il protège entre 94 et 97 des personnes. C'est exceptionnel pour une protection vaccinale. Les effets secondaires défavorables sont exceptionnels. Il y a moins de un cas d'allergie importante pour 100 000 vaccinés, bien moins qu'il n'y a d'allergie importante d'autres causes. Eh bien, il faut de l'enthousiasme, que diantre. On avait l'impression que le gouvernement s'excusait presque de devoir vacciner les gens. Ça n'allait pas. Et dans ses tweets, si vous les avez lus, le ministre de la Santé a assumé cela et a commencé de changer de ton.
Il y a quand même une réticence de la part de la population. Selon un sondage d'Ipsos, seuls 40% des Français ont l'intention de se faire vacciner. Comment convaincre ces vaccino-sceptiques ?
Alors, je vous ferai remarquer qu'avant le début de cette campagne petit bras et comme un regret du gouvernement, il y avait 55% des personnes qui désiraient se faire vacciner. Et je crois que ce passage de 55 à 40%, c'est que le gouvernement s'est avancé. Il a fait une telle erreur psychologique en se disant « bon, oui, aïe, 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 il y a beaucoup de réticence à ce vaccin, alors on va faire très, très attention, on va leur dire qu'on est prêt à arrêter, qu'ils peuvent signaler les effets secondaires. » Mais qu'est-ce que se sont dit les gens qui hésitaient ? Ils se sont dit « oui, aïe, aïe, si on fait tout ce chafouin pour une vaccination, c'est que ce n'est pas ordinaire. » Que réellement, ils ont la trouille, ils ont peur réellement. Et donc, ça a été une gigantesque et étonnante erreur psychologique. Là, il faut changer ça, naturellement. Ce n'est pas possible.
Tout se joue dans la communication, selon vous ?
Oh ben, c'est déjà très important. Je crois que c'est la communication qui a abouti à ce qu'en 15 jours, il y ait un recul de 15% des intentions de se faire vacciner. C'est tout de même spectaculaire, que voulez-vous que je vous dise. Arriver à convaincre les personnes de se faire vacciner, c'est uniquement, naturellement, de la présentation. Faire partager un enthousiasme que l'on ressent réellement.
Faut-il que nos ministres, voire Emmanuel Macron lui-même, se fassent vacciner devant les caméras et les appareils photo, comme on a pu le voir notamment aux États-Unis avec le président élu Joe Biden ?
Oh, ce serait sans doute un double effet, je crois. Parce que Emmanuel Macron est jeune, il n'est pas dans un EHPAD, bien évidemment, il n'est pas prioritaire et il y aurait des critiques qui diraient c'est un passe-droit. Et donc, si les soignants se font vacciner en masse, et il y a 80% des médecins qui sont prêts à se faire vacciner, les Français en masse ont confiance dans leurs médecins. Je crois que cela réellement suffira. Moi, je me ferai vacciner les premiers jours de janvier.
Voilà, Axel Kahn, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer. Il répondait à Laurine Benjebria. Et toujours s'agissant de vaccination, justement, le Royaume-Uni vient lui de modifier sa stratégie. Désormais, la première dose sera privilégiée et la deuxième injection renvoyée à plus tard. Un changement qui sera effectif dès lundi et dont les autorités sanitaires britanniques jugent qu'il permettra une meilleure protection de la population. Les explications à Londres de notre correspondant Richard Place.
Un peu plus de 600 000 Britanniques ont déjà reçu au moins une injection du vaccin Pfizer. Un rendez-vous est prévu 3 semaines plus tard pour la deuxième. Eh bien, ces rendez-vous sont actuellement décalés. Cette deuxième injection se fera finalement 3 mois après la première. Une stratégie assumée par les autorités sanitaires qui affirment que le vaccin est efficace à 70% grâce à la première dose et face à une épidémie qui s'emballe complètement de ce côté-ci de la Manche à cause de la variante particulièrement contagieuse découverte ici. Alors le choix est clair, vacciner le plus grand nombre plus rapidement, quitte à bénéficier d'une protection moindre. Vacciné ou pas, de toute façon, tout le monde doit respecter les restrictions sanitaires. Certains médecins rechignent déjà à annuler des rendez-vous et surtout Pfizer ne valide pas cette méthode. La firme américaine a déjà dit que son efficacité n'avait pas été évaluée. Le Royaume-Uni s'est lancé dans la course à la piqûre avant tout le monde et commencera les injections du vaccin AstraZeneca lundi prochain, tout en continuant le Pfizer, avec l'espoir d'immuniser les plus vulnérables et les plus exposés d'ici Pâques.
Alors à Londres, le carillon de Big Ben aura non seulement sonné hier soir l'entrée dans la nouvelle année, bien sûr, mais plus encore dans une nouvelle ère post-Brexit, pleine de promesses, ainsi que l'a encore fait miroiter à ses compatriotes, le sémillant Bojo, dans un éditorial où il assure que 2021 sera, je cite, une année de changement et d'espoir. Pour autant, et dans l'immédiat, c'est donc surtout un pays gravement endeuillé par la pandémie qui a définitivement quitté le giron de l'Europe, ou son carcan, c'est selon, de sorte que l'émotion était assez peu perceptible dans la capitale britannique, récemment placée en confinement face à la hausse des nouvelles infections et plus encore l'apparition donc d'un variant plus contagieux du virus. Par ailleurs, à Bruxelles, cette fois-ci, cet événement, pourtant l'un des plus importants de l'histoire du vieux continent depuis la chute de l'Union soviétique, s'est également déroulé sans fanfare. Aucun des dirigeants des institutions européennes ne s'est exprimé dans les heures qui ont suivi le divorce, ou quand le Royaume-Uni s'en est finalement allé sans aucun mot d'au revoir de la part de ses anciens partenaires. Il faut dire que le pays a toujours fait figure en réalité de mouton noir. Londres était plutôt près de ses sous et avait notamment négocié des rabais dans sa participation au budget de l'UE. Le Royaume-Uni avait par ailleurs refusé d'adopter l'euro comme monnaie commune, mais aussi de rejoindre l'espace Schengen de libre circulation. Dès lors, une Europe sans les Britanniques ira-t-elle plus facilement de l'avant? Rien n'est moins sûr. C'est une correspondance à Bruxelles signée Angélique Boin.
Quand il s'agit de sortir les chéquiers, ce n'est pas plus facile. La négociation sur le budget 2021 s'est faite sans les Britanniques, mais pas sans tension. Pays-Bas, Suède, Danemark ou encore l'Autriche ont bataillé ferme, rappelle le patron des Verts européens, le Belge Philippe Lamberts.
Ceux qu'on appelle aujourd'hui gentiment les frugaux et plus correctement les radins se cachaient derrière les Britanniques et aujourd'hui ils sont obligés d'avancer à découvert parce qu'ils n'ont plus personne derrière qui se cacher. Et c'était là un peu l'illusion que une fois les Britanniques partis, on pourrait rester entre fédéralistes européens. Ça n'a jamais été le cas et maintenant ça apparaît clairement.
De nouveaux moutons noirs auxquels on peut ajouter les États poils à gratter, ces pays parfois encore plus petits ou moins puissants mais capables de peser. Pologne, Hongrie sur l'état de droit, Chypre ou Malte sur le blanchiment d'argent, le Luxembourg sur la fiscalité, tout dépend des règles qui s'appliquent, explique l'eurodéputé.
Dans tous les domaines qui exigent l'unanimité, il ne faut pas être gros pour peser. Il suffit d'être déterminé et il y a moyen de bloquer des initiatives de l'Union. Lorsqu'évidemment il faut une majorité qualifiée, alors ça devient plus compliqué.
Et là, on regarde la population, les Britanniques pesaient lourd, les équilibres ont donc dans certains cas changé, mais pour ce qui est du poids politique, le couple franco-allemand reste le véritable pilier. On ne fait rien sans eux, même si eux ne peuvent rien faire tout seuls, ajoute Philippe Lamberts. De ce point de vue-là, rien n'a changé.
Et en revanche, en ce premier jour de l'application de l'accord du Brexit, donc beaucoup de choses vont changer. Des passeports pour les animaux, normes pour le permis de conduire, des Britanniques en passant par la réglementation sur les données privées, sans oublier bien sûr les bouleversements économiques, même si avec l'accord commercial annoncé la veille de Noël, le Royaume-Uni échappe au scénario catastrophe du no deal. Ces dernières semaines, on se souvient notamment que les images de longues files interminables de camions à Douvres avaient marqué les esprits. C'est l'une des nombreuses conséquences de ce Brexit. Le Royaume-Uni étant désormais un pays tiers, les transporteurs sont soumis à des contrôles douaniers, comme a pu le constater Valentin Dunat, alors même que le premier ferry venant d'Angleterre est arrivé ce matin à Calais.
Pour la première fois, il y avait donc des douaniers français à la réception de ces camions, car depuis minuit, le Royaume-Uni n'est plus dans le marché unique européen. Les marchandises ne circulent plus librement et donc désormais, les transporteurs doivent remplir des formalités avant d'embarquer à Douvres. Une fois arrivés ici, à Calais, deux solutions. Si les formalités sont remplies correctement, le camion peut passer et prendre directement l'autoroute. En revanche, les camions, les marchandises sont contrôlés s'ils transportent des animaux, des produits frais ou sensibles comme des armes, par exemple. Il se peut aussi que ces formalités, 84 cases à remplir avec des codes, ne soient pas effectuées correctement. Alors pour effectuer tous ces contrôles, 300 douaniers ont été recrutés dans la région, ici au port de Calais, mais également au port de Dunkerque et sur le site d'Eurotunnel.
Et quand l'on reparle à présent de l'épidémie de coronavirus, ou plus exactement de l'une de ses multiples conséquences, torpillée par la crise sanitaire, le marché automobile français s'est effondré de plus de 25% en 2020, régressant à son niveau de 1975. Bénédicte Robin, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Alors le secteur a bien entendu été victime de la fermeture des concessions, des usines pendant le premier confinement au printemps dernier. Et puis plus largement, Bénédicte, il aura souffert de l'attentisme des consommateurs sur fond de graves crises économiques.
Seulement 1 600 000 voitures neuves immatriculées en 2020 contre 2 millions d'euros en 2019. En effet, de telles proportions, c'est du jamais vu depuis 45 ans. Évidemment, c'est l'effet direct du confinement du printemps, la fermeture des concessions automobiles, des usines. Les livraisons se sont effondrées de plus de 70% en mars, de près de 90% en avril. Mais cela aurait pu être pire d'après le comité des constructeurs français d'automobiles qui s'attendait à une chute encore plus importante de l'ordre de 30% au global. Mais l'été et surtout les mois de novembre et de décembre ont permis un léger rattrapage. L'effet du second confinement a été moins dur que ce qu'il aurait pu être. Et d'ailleurs les commandes ont repris mi-décembre, ce qui augure de bons chiffres d'immatriculation pour les trois premiers mois de cette année 2021. Même si bien sûr toute projection est encore très difficile, la crise sanitaire et économique n'est pas derrière nous.
Et puis toujours selon les statistiques du comité des constructeurs français d'automobiles, publié ce matin, la part des voitures hybrides et électriques neuves vendues en France a quasiment triplé l'année dernière par rapport à 2019.
Oui, c'est un des faits marquants de cette année 2020. On est passé de 2% des ventes en électrique à plus de 6,5%. Les hybrides rechargeables sont passés à plus de 4,5%. Il faut dire qu'il y a plus de choix aussi des modèles disponibles, appuyés par les aides de l'État, des bonus à l'achat de ces voitures qui les rendent plus abordables. Cela dit, les aides vont diminuer cette année. Il faudra donc voir si l'appétence se confirme malgré la baisse. Car on peut souligner un autre fait marquant de cette année 2020, la très forte augmentation des ventes de voitures d'occasion.
Merci Bénédicte Robin. C'est une restriction de plus et pour une fois en revanche, l'épidémie de coronavirus n'est pas en cause. Depuis ce matin à Milan, il est désormais interdit de fumer à moins de 10 mètres de quelqu'un en extérieur. Rien à voir avec les gestes barrières, non, l'objectif de la municipalité est d'abord de lutter contre la pollution et pour cela, elle prévoit même d'interdire totalement la cigarette en 2025. C'est un reportage signé Bruce de Galzin.
Adieu la cigarette dans les parcs, les stades ou même les places comme celle du Duomo. Si vous êtes à moins de 10 mètres de quelqu'un, Lorena, 29 ans, vient de la prendre.
C'est terrible pour moi, ça me choque même. Je fais déjà en sorte de ne pas fumer quand je suis trop près des gens. Je le fais déjà par respect. Mais ça pollue, c'est vrai. Je pense d'abord que ça peut améliorer la santé des fumeurs et après il faut sauvegarder l'environnement. Mais on doit aussi pouvoir rester libre. Il y en a sûrement qui vont se rebeller.
L'objectif de Milan, c'est d'abord de lutter contre la pollution, au point d'interdire aux magasins en 2022 de laisser leurs portes ouvertes pour éviter de consommer trop de chauffage ou de climatisation. Luca tient un magasin de chemises italiennes dans la galerie qui donne sur le Duomo. Il apprécie peu la mesure en ces temps de crise.
Même si tu penses ne rien acheter en voyant la porte ouverte, tu rentres. Alors que si elle est fermée, tu ne rentres même pas. Et puis ce ne sont pas les magasins qui polluent le plus. Surtout ici à Milan. Commençons déjà par changer les chaudières au gazole qui polluent énormément.
Les chaudières au gazole seront totalement interdites à Milan à partir d'octobre 2022. Les fours à bois des pizzerias devront, eux, respecter de nouvelles normes. Take it from the Tech Nine, hold up. David, don't know they next shine from Shinola. Everything that glitter ain't fish scale. Let me think, don't let a faint kid smell. A shot of Jack got a back.
Voilà plusieurs semaines déjà que des rumeurs faisaient état de sa disparition. Son décès a finalement été officialisé hier soir. MF Doom, véritable légende du rap, est mort à l'âge de 49 ans. Sa femme l'a confirmé dans un communiqué officiel publié sur Instagram. En revanche, les causes de sa mort, qui remontent au 31 octobre, n'ont pas été révélées. Né à Londres, mais installé très jeune à New York, le rappeur et producteur de son vrai nom, Daniel Dumile, figure énigmatique, était connu pour son image publique insaisissable, cachée derrière un masque, mais plus encore pour sa créativité stupéfiante. Anne Lamotte a joint au téléphone Olivier Cachin, journaliste, écrivain et spécialiste de la musique hip-hop.
Bah, MF Doom, déjà, c'est une carrière assez longue, puisqu'il commence dans les années 80. Hein. Son premier groupe, c'est KMD. Et déjà, ça se termine très mal, puisque son frère, DJ Sudrock, qui fait partie du groupe, meurt d'un accident de voiture. En même temps qu'il se fait virer de son label, et c'est depuis cette époque sombre qu'il a adopté ce masque, en référence à Dr. Fatalis, Dr. Doom, que les amateurs de comics Marvel connaissent bien, une espèce de façon de se venger pour hanter sa maison de disques et faire des disques superbes, parce que c'est vrai que MF Doom, c'est aussi beaucoup d'albums, aussi bien en tant que rappeur qu'en tant que beatmaker, et c'est quelqu'un qui laisse une marque très importante de hip-hop classique américain.
Mais c'est quoi cette marque, justement? Qu'est-ce qui fait sa particularité?
C'est un son qui est quand même assez old school, c'est vraiment le boom bap des années 90. C'est-à-dire que lui, il vient d'une époque où le contenu des textes est plus important, où le hip-hop est plus presque une religion, un art de vivre, là où aujourd'hui beaucoup d'artistes dans ce mouvement sont plus désinvoltes. Hein. On est loin du mumble rap des années 2010-2020 avec MF Doom, on est quand même sur quelque chose sur un son classique.
Ouais, et très cool. En fait.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait plein d'albums instrumentaux, le titre Special Herbs, où il y a cette espèce d'ambiance, effectivement, on va pas dire trip-hop, mais en tout cas hip-hop instrumental, assez tranquille. On est dans quelque chose un petit peu, oui, on pourrait rapprocher ça de Tribe Called Quest ou de ces univers un petit peu tranquilles avec beaucoup de samples aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment ce son, cette patte du producteur new-yorkais, oui. C'est pas quelqu'un qui a la popularité d'un Kanye West ou l'image publique d'un Jay-Z, mais c'est quelqu'un qui compte autant qu'eux.
Voilà la mort de MF Doom, commentée donc par Olivier Cachin, joint au téléphone par Anne Lamotte. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, dominé par des pluies persistantes dans le sud-ouest, mais aussi des chutes de neige en plaine, dans le Jura, en Rhône-Alpes et jusqu'en région parisienne. La vigilance orange pour crue est maintenue dans les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Et puis trois départements, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, ont été placés en vigilance orange, neige, verglas. Quant aux températures, elles afficheront entre 1 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Annabelle Grolier pour le prochain journal de la rédaction.